Genèse du capital et de l'État moderne. Du premier cas, il résulte le principe d'une division du travail et d'un commerce étendu. Du second, la particularité locale. Dans le premier cas, il faut que les individus soient réunis. Dans le second, ils se trouvent eux-mêmes à côté de l'instrument de production donné, comme instrument de production. Ici apparaît, par conséquent, la différence entre les instruments de production issus de la nature et ceux créés par la civilisation. On peut considérer le champ, l'eau, etc., comme un instrument de production naturelle. Dans le premier cas, avec l'instrument de production naturelle, les individus sont assujettis à la nature. Dans le second, à un produit du travail. C'est pourquoi, dans le premier cas, la propriété foncière, entre parenthèses, apparaît comme immédiatement et naturellement prédominante. Dans le second, c'est le travail qui prédomine. Particulièrement, le travail accumulé, le capital. Le premier cas présuppose des individus unis par un lien quelconque, par la famille, par le lignage, par le sol lui-même, etc. Le second, des individus indépendants les uns des autres, et réunis uniquement par l'échange. Dans le premier cas, l'échange s'effectue principalement entre les hommes et la nature. Le travail des uns s'échangeant contre le produit des autres. Dans le second, il est, de manière prépondérante, un échange entre les hommes eux-mêmes. Dans le premier cas, l'intelligence moyenne suffit. L'activité corporelle et l'activité spirituelle n'étant encore nullement séparés. Dans le second, il faut que la division entre le travail intellectuel et le travail corporel soit déjà presque accomplie. Dans le premier cas, la domination du propriétaire sur les non-possédants peut reposer sur des rapports personnels, sur une sorte de communauté. Dans le second, elle doit avoir revêtu un tiers élément, l'argent, une forme d'objet. Dans le premier cas, la petite industrie existe, certes, mais elle dépend de l'utilisation de l'instrument de production naturelle. Et il n'y a donc pas répartition du travail entre différents individus. Dans le second cas, l'industrie n'existe que dans la division du travail et par celle-ci. Jusqu'ici, nous sommes partis des instruments de production et nous avons déjà pu constater, à cette occasion, la nécessité de la propriété privée à certains stades de l'industrie. Dans l'industrie extractive, la propriété coïncide encore entièrement avec le travail. Dans la petite industrie, et jusqu'à nos jours, dans toute l'agriculture, la propriété est la conséquence nécessaire des instruments de production existants. Dans la grande industrie, l'opposition de l'instrument de production et de la propriété privée n'en est que le résultat. Et il faut qu'elle soit déjà très développée pour produire cet effet. Aussi, c'est seulement avec l'apparition de la grande industrie que l'abolition de la propriété privée devient possible. La plus grande division du travail matériel et du travail intellectuel est la séparation de la ville et de la campagne. L'opposition de la ville et de la campagne commence avec le passage de la barbarie à la civilisation, de l'institution tribale à l'État, de la localité à la nation, et il persiste à travers toute l'histoire de la civilisation jusqu'à nos jours. Avec la ville naît la nécessité de l'administration, de la police, des impôts, etc. Bref, du régime communal et, partant, de la politique tout court. C'est là qu'apparaît pour la première fois la division de la population en deux grandes classes, qui repose directement sur la division du travail et sur les instruments de production. La ville, c'est déjà le fait de la concentration de la population, des instruments de production, du capital, des modes de consommation, des besoins, tandis que la campagne met en évidence le fait opposé, l'isolement et le démembrement. L'opposition de la ville et de la campagne ne peut exister qu'à l'intérieur de la propriété privée. C'est l'expression la plus flagrante de l'assujettissement de l'individu à la division du travail, à une activité déterminée qu'on lui impose. Cette servitude fait de l'un un animal borné de la ville, de l'autre un animal borné de la campagne, et elle ravive chaque jour l'opposition de leurs intérêts. Là encore, le travail est le facteur primordial. C'est une puissance au-dessus des individus. Et aussi longtemps qu'elle existera, il faudra que la propriété privée existe. La disparition de l'opposition entre la ville et la campagne est l'une des premières conditions de la communauté, condition qui dépend à son tour d'une masse de données matérielles préalables, que la simple volonté ne suffit pas à créer, comme chacun peut le constater au premier coup d'œil. La séparation de la ville et de la campagne peut encore être comprise comme séparation du capital et de la propriété foncière, comme le début, pour le capital, d'une existence et d'un développement indépendant de la propriété foncière, d'une propriété dont la seule base est le travail et l'échange. Dans les villes qui, au Moyen-Âge, n'étaient pas un legs tout préparé du passé, mais qui se constituèrent toutes neuves grâce à l'afflux des serfs affranchis, le travail particulier de chacun était son unique propriété en dehors du petit capital qu'il apportait, et qui se composait presque exclusivement des outils de première nécessité. La concurrence des serfs fugitifs, affluant sans cesse dans les villes, la guerre incessante de la campagne contre les villes, et, partant, la nécessité d'une force militaire urbaine bien organisée, le lien que constituait la propriété commune d'un travail déterminé, le besoin de bâtiments communs pour la vente de leurs marchandises, à une époque où les artisans étaient en même temps commerçants, d'où la nécessité d'interdire ces bâtiments aux personnes non autorisées, l'opposition des intérêts des divers métiers entre eux, le besoin d'une défense du métier, laborieusement appris et l'organisation féodale de tout le pays, tout cela amena les travailleurs de chaque métier à se grouper en corporations. Nous n'avons pas à nous étendre ici sur les multiples modifications que l'organisation corporative subit par la suite au cours de l'histoire. L'exode des serfs vers les villes se poursuivit sans interruption durant tout le Moyen-Âge. Persécutés à la campagne par leurs seigneurs, ces serfs arrivaient un par un dans les villes où ils se trouvaient impuissants devant une commune organisée. Aussi y étaient-ils contraints de se plier à la position assignée par le besoin que l'on avait de leur travail et par l'intérêt de leurs concurrents urbains bien organisés. Arrivant individuellement, ces travailleurs ne parvinrent jamais à constituer une force. Ou bien leur travail relevait d'un métier juré, nécessitant un apprentissage, et, dans ce cas, les maîtres de jurande les soumettaient à leurs lois et les organisaient selon leurs intérêts, ou bien leur métier ne nécessitait pas d'apprentissage, n'avait donc pas de caractère corporatif, mais était un travail de journalier. Et dans ce cas, ils ne pouvaient jamais se donner une organisation, mais demeurer une plèbe inorganisée. C'est la nécessité du travail de journalier dans les villes qui a donné naissance à la populace. Ces villes étaient de véritables « associations », entre guillemets, nées du besoin immédiat, du souci de protéger la propriété, et créées en vue de multiplier les instruments de production et les moyens de défense de tous ses membres. Du fait qu'elles se composaient d'individus étrangers les uns aux autres, venus séparément et affrontant, eux désorganisés, une puissance organisée, militairement équipée, qui les surveillait jalousement, la plèbe de ces villes était privée de tout pouvoir. Compagnons et apprentis étaient dans chaque métier organisés au mieux des intérêts des maîtres. Le rapport patriarcal où ils se trouvaient vis-à-vis de leurs maîtres conférait à ces derniers une double puissance. D'une part en raison de leur influence directe sur toute la vie des compagnons, et ensuite, du fait que ces rapports créaient, pour les compagnons employés par un même maître, un véritable lien, qui les unissait face aux compagnons des autres maîtres et les séparait de ces maîtres-là. Et enfin, l'intérêt qu'ils avaient à devenir maîtres à leur tour liait les compagnons à l'ordre existant. Or, tandis que la plèbe réussit au moins à fomenter des émeutes contre l'ordre communal tout entier, qui cependant, vu l'impuissance de cette plèbe, restèrent sans le moindre effet, les compagnons ne parvinrent qu'à des petites rébellions au sein de certaines corporations, phénomène inhérent au système corporatif. Les grandes révoltes du Moyen-Âge partirent toutes de la campagne, mais aussi leurs échecs furent totaux. Vivant dispersés, les paysans étaient demeurés incultes. Dans ces villes, le capital avait une organisation naturelle, se composant de l'habitation, des outils et de la clientèle héréditaire, naturelle. Du fait que le commerce était peu développé et que la circulation était insuffisante, ce capital ne pouvait être réalisé et se transmettait de père en fils. Ce n'était pas, comme le capital moderne, un capital évaluable en monnaie, que l'on peut indifféremment investir dans une chose ou une autre, mais un capital lié directement au travail déterminé de son possesseur, tout à fait inséparable de ce travail, et partant, un capital corporatif. Même dans les villes, entre les diverses corporations, la division du travail était encore très rudimentaire. Et à l'intérieur des corporations mêmes, entre les ouvriers, elle était tout à fait inexistante. Chaque ouvrier devait être familiarisé avec tout un ensemble de travaux, et il devait savoir exécuter tout ce qu'il était possible de faire avec ses outils. Le commerce restreint et le peu de communication entre les différentes villes, la rareté de la population et la modicité des besoins empêchèrent une division poussée du travail. Et de ce fait, quiconque voulait passer maître devait connaître son métier à fond. Aussi, l'on constate que les artisans du Moyen-Âge s'intéressent encore à leur métier particulier et y recherchent une habileté qui peut s'élever jusqu'à un certain goût artistique, au demeurant assez borné. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, au Moyen-Âge, chaque artisan se vouait tout entier à son travail, avait avec celui-ci des rapports sentimentaux de servitude, et en était beaucoup plus dépendant que l'ouvrier moderne, qui n'a qu'indifférence pour son labeur. L'extension subséquente de la division du travail, ce fut la séparation entre la production et le commerce, la formation d'une classe particulière de commerçants, séparation qui s'était maintenue entre les villes aux traditions historiques anciennes et qui fut léguée aux villes nouvellement formées. Note de bas de page, entre autres avec les Juifs. Fin de la note de bas de page. La possibilité de relations commerciales dépassant le voisinage immédiat était ainsi donnée, et sa mise en œuvre dépendait des moyens de communication existants, de l'état de la sécurité publique dans les campagnes, lui-même conditionné par des facteurs politiques et par des besoins plus ou moins rudimentaires ou développés, suivant le niveau culturel atteint par le territoire accessible au commerce. Du jour où le commerce est constitué dans une classe particulière, où des marchands étendent le négoce au-delà des environs immédiats de la ville, une interaction se produit aussitôt entre la production et le commerce. Les villes nouent des relations entre elles. De nouveaux outils circulent d'une ville à l'autre. Et la division entre la production et le commerce suscite bientôt une nouvelle division de la production entre les différentes villes, chacune exploitant aussitôt une branche d'industrie prédominante. Peu à peu, la limitation primitive du commerce local vient à disparaître. Il dépend uniquement de l'extension du commerce que les forces productives acquises dans un lieu déterminé, notamment les inventions, soient ou ne soient pas perdues pour le développement ultérieur. Tant que le commerce ne dépasse pas encore le voisinage immédiat, toute invention doit être faite dans chaque lieu en particulier. Et il suffit de simples hasards, tels que l'irruption de peuples barbares, voire des guerres ordinaires, pour obliger un pays, dont les forces productives et les besoins sont développés, de repartir à zéro. À l'aube de l'histoire, chaque invention devait être réinventée chaque jour, et dans chaque lieu de manière indépendante. Même avec un commerce relativement très étendu, les forces productives développées sont loin d'être à l'abri de la ruine totale, comme en témoigne l'histoire des Phéniciens. Leurs inventions furent, en majeure partie, perdues pour longtemps du fait que cette nation fut évincée du commerce par la conquête d'Alexandre et le déclin qui s'ensuivit. Au Moyen-Âge, un sort semblable frappa l'art du vitrail, par exemple. C'est seulement quand le commerce a pris une extension mondiale, et pour base la grande industrie, que toutes les nations sont entraînées dans les batailles de la concurrence, et la pérennité des forces productives acquises est assurée. La division du travail entre les différentes villes eut pour conséquence immédiate la naissance des manufactures, branches de production qui brisaient le cadre du système corporatif. Le premier épanouissement des manufactures, en Italie et plus tard dans les Flandres, eut pour antécédent historique le commerce avec les nations étrangères. Dans d'autres pays, l'Angleterre et la France par exemple, les manufactures se limitèrent dès l'abord au marché intérieur. En dehors des conditions indiquées, les manufactures supposent une concentration avancée de la population, surtout à la campagne, et du capital, lequel commençait à s'accumuler dans un petit nombre de mains, soit dans les corporations malgré les règlements corporatifs, soit chez les commerçants. Le travail qui, dès le début, dépendait d'une machine, fût-elle la plus rudimentaire, se révéla très vite le plus susceptible d'évoluer. Le tissage, que les paysans pratiquaient jusqu'alors, à la campagne, de manière accessoire, afin de se procurer l'habillement nécessaire, fut le premier travail auquel l'extension du trafic commercial donna une impulsion et un essor important. Le tissage fut et resta la première et principale industrie manufacturière. La demande croissante de tissus pour vêtir une population croissante, l'accumulation de la mobilisation naissante du capital primitif par suite de la circulation accélérée, le besoin de luxe qui en résulte, favorisé par l'extension progressive du commerce en général, donnèrent au tissage, tant quantitativement que qualitativement, une impulsion qui l'arracha au mode de production traditionnel. À côté des paysans tissants, pour leur propre usage, qui se sont conservés et subsistent encore, surgit, dans les villes, une nouvelle classe de tisserands, dont les produits étaient destinés à l'ensemble du marché intérieur, et aussi, le plus souvent, aux marchés étrangers. Travail qui, dans la plupart des cas, demande peu d'habileté, et qui ne tarde pas à se subdiviser en une infinité de branches. Le tissage répugnait, par toute sa nature, aux entraves de la corporation. Aussi fut-il généralement pratiqué, dans les villages et les bourgs dépourvus d'organisation corporative, qui devinrent peu à peu, des villes, et même très vite, les villes les plus florissantes de chaque pays. Avec la manufacture libérée des contraintes corporatives, les rapports de propriété, eux aussi, se modifièrent rapidement. Le premier progrès au-delà du capital primitif des corporations s'accomplit par l'apparition des marchands dont le capital fut mobile dès le début. C'était du capital au sens moderne du terme, autant qu'il en puisse être question dans les conditions de l'époque. Le second progrès vint avec la manufacture qui mobilisa, à son tour, une masse de capital primitif et, de manière générale, augmenta la masse du capital mobile par rapport au capital primitif. Simultanément, la manufacture devint un refuge pour les paysans contre les corporations qui leur fermaient leurs portes ou les payaient mal, tout comme autrefois les corporations urbaines leur avaient servi de refuge contre les propriétaires fonciers. Les débuts des manufactures furent marqués immédiatement par une période de vagabondage, conséquence de la disparition des suites féodales, du licenciement des armées rassemblées pour servir les rois contre les vassaux, d'une agriculture amendée et de la transformation en pâturage de grandes zones de terres arables. On comprend donc aisément pourquoi ce vagabondage est lié étroitement au déclin de la féodalité. Dès le XIIIe siècle, on constate quelques périodes de ce genre, mais le vagabondage n'apparaît, d'une manière générale et durable, qu'à la fin du XVe siècle et au début du XVIe. Ces vagabonds étaient si nombreux qu'à lui seul, Henri VIII en fit pendre 72 000. Et ce n'est qu'au prix d'énormes difficultés et sous l'aiguillon du dénuement extrême qu'on réussit, après une longue résistance, à les faire travailler. L'essor rapide des manufactures, surtout en Angleterre, contribua à leur absorption progressive. Avec la manufacture, des rapports de concurrence s'établirent entre les différentes nations et la lutte commerciale fut menée par le moyen de guerre, de tarifs protectionnistes et de lois prohibitives. Alors qu'autrefois, les nations, pour autant qu'elles entretenaient des contacts, ne pratiquaient entre elles que des échanges paisibles. Dès ce moment, le commerce prit une signification politique. La manufacture entraîna simultanément une transformation des rapports entre le travailleur et l'employeur. Dans les corporations, le lien patriarcal entre les compagnons et le maître subsistait. Il fut remplacé dans la manufacture par le lien d'argent entre le travailleur et le capitaliste. Lien qui, à la campagne et dans les petites villes, conserva sa teinte patriarcale, mais qui, dans les villes manufacturières, de quelque importance, perdit très tôt presque toute coloration patriarcale. L'extension du commerce, par suite de la découverte de l'Amérique et de la route maritime des Indes orientales, donna un essor prodigieux à la manufacture, et d'une façon générale, au mouvement de la production. Les nouveaux produits importés de ces régions, et en particulier les masses d'or et d'argent jetées dans la circulation, modifièrent radicalement la position mutuelle des classes et portèrent un rude coup à la propriété foncière féodale et aux travailleurs. Les expéditions d'aventuriers, la colonisation et, avant tout, la possibilité donnée au marché de s'étendre chaque jour, jusqu'à s'amplifier en marché mondial, suscitèrent une nouvelle phase de l'évolution historique dont il n'y a pas lieu, d'une façon générale, de s'occuper ici en détail. Par la colonisation des pays récemment découverts, la lutte commerciale entre les nations reçut un aliment nouveau et par conséquent, une extension et une exaspération accrue. L'extension du commerce et de la manufacture accéléra l'accumulation du capital mobile, tandis que dans les corporations, qu'aucun stimulant n'incitait à élargir la production, le capital primitif demeurait stable ou même diminué. Le commerce et la manufacture créèrent la grande bourgeoisie. Concentrée dans les corporations, la petite bourgeoisie, désormais, ne dominait plus dans les villes comme autrefois, mais devait s'incliner devant la suprématie des grands commerçants et des manufacturiers. D'où le déclin des corporations dès qu'elles entraient en contact avec la manufacture. Pendant la période dont nous avons parlé, les rapports des nations entre elles, dans leur commerce, prirent deux formes différentes. Au début, en raison de la faible quantité d'or et d'argent en circulation, on interdit l'exportation de ces métaux. Quant à l'industrie, devenue nécessaire par suite de l'obligation d'occuper la population grandissante des villes, industrie généralement importée de l'étranger, elle ne pouvait se passer des privilèges qui pouvaient naturellement être accordés non seulement contre la concurrence intérieure, mais principalement contre la concurrence extérieure. Dans ces prohibitions primitives, le privilège corporatif local fut étendu à l'ensemble de la nation. Les droits de douane proviennent des redevances que les seigneurs féodaux imposaient, comme rachat du pillage, aux marchands qui traversaient leur domaine. Redevances que les villes, elles aussi, imposèrent plus tard, et qui devinrent pour le fisc, lors de l'avènement des États modernes, le moyen le plus commode de se procurer de l'argent. L'apparition de l'or et de l'argent américain sur les marchés européens, le développement progressif de l'industrie, l'essor rapide du commerce, et par voie de conséquence, l'épanouissement de la bourgeoisie hors jurande et de la monnaie, donnèrent à ces mesures une signification nouvelle. L'État devenait chaque jour plus nécessiteux d'argent. Il maintint alors, pour des raisons fiscales, l'interdiction d'exporter les métaux précieux. Quant aux bourgeois, qui trouvaient dans ces nouvelles masses de monnaie jetées sur le marché le principal objet de l'accaparement, ils étaient pleinement satisfaits. Les privilèges déjà acquis devinrent une source de revenus pour le gouvernement et furent vendus à prix d'argent. La législation des douanes s'enrichit des taxes à l'exportation, franc obstacle à l'industrie, dont le but était purement fiscal. La seconde période débuta vers le milieu du XVIIe siècle et dura presque jusqu'à la fin du XVIIIe. Le commerce et la navigation s'étaient développés plus rapidement que la manufacture, qui jouait un rôle secondaire. Les colonies commencèrent à devenir de gros consommateurs, les différentes nations se partagèrent, en de longs combats, le marché mondial qui venait de s'ouvrir. Cette période débute avec les lois sur la navigation et les monopoles coloniaux. On élimina autant que possible la concurrence entre les nations, au moyen de tarifs douaniers, de prohibitions, de traités, et, en dernière instance, les luttes de concurrence furent menées à leur terme par des guerres, surtout navales. Les Anglais, la nation la plus puissante sur mer, conservèrent la prépondérance commerciale et industrielle. Voilà déjà la concentration sur un seul pays. Sur le marché intérieur, la manufacture était constamment protégée par des droits de douane. Sur le marché colonial, par les monopoles. Et sur le marché extérieur, autant que possible, par des taxes différentielles. La transformation des matières brutes produites dans le pays même fut encouragée, entre parenthèses, laine et lin en Angleterre, soit en France. L'exportation de ces matières fut interdite, laine en Angleterre, entre parenthèses, et la transformation des matières importées fut négligée ou supprimée, coton en Angleterre, entre parenthèses. La nation qui dominait le commerce maritime et possédait la puissance coloniale s'assura naturellement aussi la plus grande extension, quantitative et qualitative, de la manufacture. Celle-ci ne peut aucunement se passer de protection, car le moindre changement qui intervient dans d'autres pays peut lui faire perdre son marché et la ruiner. Facile à introduire dans un pays où les conditions sont tant soit peu favorables, elle est, de ce fait même, facile à détruire. En même temps, par la manière dont on l'exerçait à la campagne, surtout au XVIIIe siècle, elle est si intimement liée aux conditions de vie d'une grande masse d'individus qu'aucun pays n'oserait risquer sa propre existence en autorisant la libre concurrence. En vient-elle à exporter ? Elle dépend donc entièrement de l'extension ou de la limitation du commerce, et n'exerce sur lui qu'une pression relativement très faible. De là, son importance secondaire au XVIIIe siècle, comparée à l'influence des marchands. Ce furent les marchands, et tout particulièrement les armateurs, qui, plus que quiconque, réclamèrent avec insistance la protection de l'État et les monopoles. Il est vrai que les manufacturiers, eux aussi, demandèrent et obtinrent cette protection, mais ils cédèrent toujours aux marchands en importance politique. Les villes commerçantes, les villes maritimes en particulier, se civilisèrent passablement et devinrent des villes de grande bourgeoisie, tandis que la petite bourgeoisie se maintenait dans les villes manufacturières. Le XVIIIe siècle fut le siècle du commerce. Le mouvement du capital s'était sensiblement accéléré. Néanmoins, il demeurait encore relativement lent. L'éclatement du marché mondial en partie isolé, dont chacune était exploitée par une nation particulière, l'élimination de la concurrence entre les nations, l'inhabilité de la production elle-même, et un système monétaire encore très rudimentaire, tout cela donnait un grand retard à la circulation. La conséquence en fut un esprit mercantile, mesquin et sordide, qui a marqué tous les marchands et toutes les méthodes et opérations commerciales. À la vérité, en comparaison des manufacturiers et surtout des artisans, c'était de grands bourgeois. Mais en comparaison des commerçants et des industriels de la période suivante, ils restent de petits bourgeois. En outre, cette période se caractérise par la levée de l'interdiction d'exporter l'or et l'argent, par la naissance du commerce monétaire, des banques, des dettes publiques, du papier monnaie, des spéculations en fonds publics et en actions, de l'agiotage sur tous les articles et du développement général du système monétaire. Le capital lui-même perdit une grande partie du caractère primitif dont il était encore empreint. Au cours du XVIIe siècle, les progrès irrésistibles de la concentration du commerce et de la manufacture dans un seul pays, l'Angleterre, créèrent peu à peu, pour cette nation, un marché quasi mondial, et partant, une demande de ses produits manufacturés, que les forces productives de l'industrie traditionnelle ne pouvaient plus satisfaire. Cette demande, en excédant les ressources productives, fut la force d'impulsion qui suscita la troisième période de la propriété privée depuis le Moyen-Âge. Elle créa la grande industrie fondée sur l'utilisation des forces élémentaires à des fins industrielles, le machinisme et la division du travail à une énorme échelle. les autres conditions de cette nouvelle phase, la liberté de la concurrence à l'intérieur de la nation, le perfectionnement de la mécanique théorique. Note de bas de page, la mécanique parachevée par Newton était en fait, au XVIIIe siècle, la science la plus populaire en France et en Angleterre. Fin de la note de bas de page. Les autres conditions de cette nouvelle phase, donc, la liberté de concurrence à l'intérieur de la nation, le perfectionnement de la mécanique théorique, etc., existaient déjà en Angleterre. Nouvelle note de bas de page, la libre concurrence à l'intérieur même de la nation dut être partout conquise par une révolution, 1640 et 1688 en Angleterre, 1789 en France. Fin de la note de bas de page. La concurrence força bientôt chaque pays jaloux de son rôle historique à protéger ses manufactures par de nouvelles mesures de douane. Ouvrez la parenthèse, les anciens tarifs n'étant plus d'aucune efficacité contre la grande industrie. Fermez la parenthèse. Et, peu après, à introduire la grande industrie en l'abritant sous des droits protecteurs. Malgré ses moyens de protection, la grande industrie généralisa la concurrence. Ouvrez la parenthèse, qui est pratiquement le libre-échange, les droits protecteurs n'y étant qu'un palliatif, un instrument de défense à l'intérieur de la liberté commerciale. Fermez la parenthèse. Malgré ses moyens de protection, donc, la grande industrie généralisa la concurrence, établit les moyens de communication et le marché mondial moderne, soumit le commerce à sa domination, transforma tout capital en capital industriel, créant ainsi la circulation et la centralisation rapide des capitaux, le développement du système monétaire. Par la concurrence universelle, elle obligea tous les individus à tendre au maximum leur énergie. Elle fit tout pour anéantir l'idéologie, la religion, la morale, etc. Et lorsqu'elle n'y réussit pas, elle les fit passer en un mensonge flagrant. C'est elle qui créa enfin l'histoire universelle, dans la mesure où elle mit sous la dépendance du monde entier chaque nation civilisée et chaque individu de cette nation pour la satisfaction de ses besoins, abolissant ainsi l'isolement primitif et traditionnel de nombreuses nations. Elle subordonna la science de la nature au capital et ôta à la division du travail l'air de spontanéité et de naturel qui lui restait. D'une manière générale, et dans la mesure du possible, elle détruisit à l'intérieur du travail la spontanéité naturelle et réduisit toutes les relations naturelles à des rapports monétaires. À la place des villes devenues naturelles, elle créa les grandes cités industrielles modernes qui ont poussé à vue d'œil. Partout où elle s'imposa, elle détruisit les métiers manuels et effaça généralement tous les stades antérieurs de l'industrie. Elle consacra la victoire de la ville sur la campagne. Son aboutissement, c'est le système automatique. Elle fit naître une masse de forces productives qui se heurtèrent à l'obstacle de la propriété privée. De même que la manufacture s'était heurtée à la corporation, à l'artisanat en voie de formation et à la petite exploitation rurale. Sous le règne de la propriété privée, ces forces productives ne connaissent qu'un développement partiel. Elles deviennent pour la plupart des forces destructrices. Et nombre d'entre elles ne peuvent trouver la moindre application dans la propriété privée. En général, elle produisit partout les mêmes relations entre les classes de la société et anéantit par là même ce qu'il y a de particulier dans les diverses nationalités. Et enfin, tandis que la bourgeoisie de chaque nation conserve encore des intérêts nationaux à part, la grande industrie crée une classe dont les intérêts sont identiques dans toutes les nations, et pour laquelle la nationalité est déjà abolie. Une classe qui s'est vraiment débarrassée du monde ancien et qui, en même temps, lui fait face. Elle rend insupportable aux travailleurs non seulement ses rapports avec le capitaliste, mais le travail lui-même. Il va de soi que la grande industrie ne parvient pas au même étage de perfectionnement dans toutes les régions d'un même pays. Toutefois, cela ne suspend pas le mouvement de classe du prolétariat, étant donné que les prolétaires issus de la grande industrie prennent la tête de ce mouvement et entraînent toute la masse avec eux, et que les travailleurs exclus de la grande industrie sont placés par celle-ci dans une situation pire encore que les travailleurs de la grande industrie même. Pareillement, les pays où une grande industrie s'est constituée agissent sur les pays plus ou moins dépourvus d'industrie, dans la mesure où ceux-ci sont entraînés par le commerce mondial dans la concurrence universelle. Ces divers phénomènes révèlent autant de formes d'organisation du travail et partant de la propriété. À toutes les époques, il s'est produit une concentration des forces productives existantes en fonction des besoins qui l'ont rendue nécessaire.